Leçon 7, semaine du 7 au 13 mai, l'alliance avec Abraham. Samedi après-midi, texte à mémoriser. Abraham répondit, « Seigneur Dieu, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Genèse 15 au verset 2. Avec Genèse 15, nous arrivons au moment crucial où Dieu formalise son alliance avec Abraham. L'alliance abrahamique est la deuxième alliance après l'alliance avec Noé. Comme avec l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham implique également d'autres nations, car en définitive, l'alliance avec Abraham fait partie de l'alliance éternelle qui est offerte à l'humanité. Genèse 17, verset 7, Hébreux 13, au verset 20. Cet épisode de la vie d'Abraham est pleine de peur et de rire. Abraham a peur, Genèse 15 au verset 1, ainsi que Sarah, Genèse 18 au verset 15, et Agar, Genèse 21 au verset 17. Abraham rit, Genèse 17 verset 17, Sarah, Genèse 18 verset 2, et Ismaël aussi, Genèse 21 au verset 9. Ces chapitres résonnent de sensibilité et de chaleur humaine. Abraham se passionne pour le salut des méchants sodomites. Il est bienveillant envers Sarah, Agar et Lot, et il est hospitalier envers les trois étrangers, Genèse 18 au verset 2 à 6. C'est dans ce concept qu'Abraham, dont le nom implique noblesse et respectabilité, va voir son nom changer en Abraham qui signifie « père d'une multitude de nations », Genèse 15 au verset 7. Ainsi, nous avons là davantage d'indices de la nature universelle de ce que Dieu prévoit de faire à travers son alliance avec Abraham. Dimanche 8, la foi d'Abraham. Lisez Genèse 15 au verset 1 à 21 et Romains 4 verset 3, 4, 9 et 22. En quoi Abraham manifeste-t-il ce que signifie vivre par la foi? Quelle est la signification du sacrifice que Dieu a poussé Abraham à faire? La première réponse de Dieu à la préoccupation d'Abraham concernant un héritier, Genèse 15, verset 1 à 3, c'est qu'il aura un fils qui sortira de lui, Genèse 15, verset 4. Le même vocabulaire est employé par le prophète Nathan pour faire référence à la descendance du futur roi messianique, de Samuel 7, au verset 12. Abraham fut rassuré et mit sa foi dans le Seigneur, Genèse 15, au verset 6. Car il comprit que l'accomplissement de la promesse de Dieu ne dépendait pas de sa propre justice, mais de celle de Dieu. Si Genèse 15 au verset 6, voire Romains 4 verset 5 et 6. Cette notion est extraordinaire, surtout pour cette culture. Dans la religion des anciens Égyptiens, par exemple, voici comment le jugement était rendu. On comptait les œuvres de justice humaine et on les comparait à la justice de l'ADN, Ma'at, qui représentait la justice divine. En bref, vous deviez gagner le salut. Dieu organise ensuite une cérémonie sacrificielle qu'Abraham devra accomplir. Le sacrifice renvoie à la mort de Christ pour nos péchés. Les humains sont sauvés par grâce, le don de la justice de Dieu symbolisé par ses sacrifices. Mais cette cérémonie particulière communique des messages précis pour Abraham. Le fait que les oiseaux de proie s'abattent sur les animaux sacrifiés, Genèse 15, 9 à 11, signifie que les descendants d'Abraham souffriront de l'esclavage pendant 400 ans, Genèse 15 au verset 13, ou 4 générations, Genèse 15 au verset 16. Puis, au cours de la quatrième génération, les descendants d'Abraham reviendront ici, Genèse 15, verset 16. La dernière scène de la cérémonie sacrificielle est dramatique. Une fournaise fumante et une torche de feu passèrent entre les animaux partagés. Genèse 15 au verset 17. Ce miracle extraordinaire symbolise l'engagement de Dieu à accomplir sa promesse de l'alliance. Il donnera le pays aux descendants d'Abraham. Genèse 15 au verset 18. Les limites de cette terre promise depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate, Genèse 15 au verset 18, nous rappellent les limites du jardin d'Éden, Genèse 2 au verset 13 et 14. Et par conséquent, cette prophétie va bien au-delà de l'Exode et de la prophétie promise à Israël. À l'horizon de cette prophétie, chez les descendants d'Abraham s'emparant du pays de Canaan, apparaît l'idée du salut, de la fin des temps du peuple de Dieu qui reviendra au jardin d'Éden. Comment apprendre à garder les yeux fixés sur Christ et sa justice comme le seul espoir de salut que nous croyons? Qu'arrive-t-il quand nous essayons de commencer à faire le compte de nos bonnes œuvres? Lundi 9 mai, les doutes d'Abraham. Lisez Genèse 16 au verset 1 à 16. Quelle est la signification de la décision d'Abraham d'aller avec Agar, même malgré la promesse que Dieu lui avait faite? En quoi les deux femmes représentent-elles deux attitudes de la foi? Galates 4, versets 21 à 31. Quand Abraham douta, Genèse 15 au verset 2, Dieu l'avait rassuré. Il aurait un fils. À présent, des années plus tard, Abraham n'a toujours pas de fils, même après la dernière puissante prophétie de Dieu. Abraham semble avoir perdu sa foi. Il ne croit plus qu'il pourra avoir un fils avec Saraï. Saraï, désespérée, prend l'initiative et le pousse à recourir à une pratique courante de cette époque dans le Proche-Orient ancien. Prendre une autre épouse, une mère porteuse, c'est Agar, la servante de Saraï, qui est désignée pour remplir cette fonction. Et ce système porte ses fruits. Ironiquement, cette stratégie humaine semble plus efficace que la foi en les promesses de Dieu. Le passage qui décrit la relation entre Saraï et Abraham fait écho à l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Les deux textes partagent un certain nombre de motifs communs. Saraï, comme Ève, est active, Abraham, comme Adam, est passif, et ont également des verbes et des expressions en commun. Écouta, prit et donna. Ce parallèle entre les deux récits implique que Dieu désapprouve ce choix. L'apôtre Paul fait référence à cette histoire pour parler des œuvres par rapport à la grâce. Galates 4, versets 23 à 26. Dans les deux récits, le résultat est le même. La récompense immédiate d'une œuvre humaine qui se situe hors de la volonté de Dieu va entraîner des problèmes à l'avenir. Remarquez que Dieu est absent pendant tout ce temps. Saraï parle de Dieu, mais elle ne lui parle jamais. Quant à Dieu, il ne parle à aucun d'eux. Cette absence de Dieu est frappante, surtout quand il a été présent dans le chapitre précédent. Dieu apparaît ensuite à Agar, mais uniquement après son départ de la maison d'Abraham. Cette apparition inattendue révèle que Dieu est présent malgré nos tentatives humaines d'agir sans lui. La référence à l'ange de l'Éternel, Genèse 16 au verset 7, est un titre qui est souvent identifié au Seigneur, Yahvé, Adonai, Genèse 18 verset 1, 13 et 22. Cette fois, c'est Dieu qui prend l'initiative et qui annonce à Agar qu'elle donnera naissance à un fils, Ismaël, dont le nom signifie « Dieu entend ». Ironiquement, l'histoire qui se termine par l'idée d'entendre, Shama, fait écho au début de l'histoire quand Abraham écouta, Shama, la voix de Saraï. Genèse 7 au verset 2. Pourquoi est-il si facile d'avoir la même foi qu'Abraham en ce moment-là? Mardi 10 mai, le signe de l'alliance abrahamique. Lisez Genèse 17, versets 1 à 19 et Romains 4 au verset 11. Quelle est la signification spirituelle et prophétique du rite de la circoncision? Le manque de foi d'Abraham, comme on le voit dans l'histoire précédente, Genèse 16, interrompt le cours du voyage spirituel d'Abraham avec Dieu. Pendant ce temps, Dieu est silencieux. Pour la première fois, désormais, Dieu parle de nouveau à Abraham. Dieu reprend le contact avec Abraham et le ramène au stade où il avait fait alliance avec lui. Genèse 15 au verset 18. Cependant, Dieu lui donne à présent le signe de cette alliance. Les chercheurs ont beaucoup discuté de la signification de la circoncision, mais du fait que le rite de la circoncision implique de verser du sang, Genèse 4 verset 25, on peut le comprendre dans le contexte du sacrifice qui signifie que la justice lui fut imputée, Romains 4 verset 11. Il est également significatif que cette alliance signifiée par la circoncision soit décrite en des termes qui renvoient à la première prophétie messianique. Voir Genèse 17 au verset 7 et Genèse 3 verset 15. Le parallèle entre les deux textes indique que la promesse de Dieu à Abraham concerne davantage que la naissance physique du peuple. Elle contient la promesse spirituelle du salut pour tous les peuples de la terre et la promesse de l'alliance éternelle. Genèse 17 au verset 7 renvoie à l'œuvre de la descendance messianique au sacrifice du Christ qui assure la vie éternelle à tous ceux qui la réclament par la foi, ainsi qu'à tout ce que la foi suppose. Romains 6 au verset 23, Tite 1 verset 2. Fait intéressant, cette promesse d'un avenir éternel est contenue dans le changement du nom d'Abraham et Saraï. Leur nom ne renvoyait qu'à leur statut présent. Abraham signifie « père exalté », Saraï « ma princesse », c'est-à-dire la princesse d'Abraham. Le changement des prénoms en Abraham et Sarah renvoyait à l'avenir. Abraham signifie « père d'une multitude de nations » et Sarah « la princesse de tout le monde ». En parallèle, mais non sans une certaine ironie, le nom d'Isaac, « il rira », est un rappel du rire d'Abraham, le premier rire rapporté dans les Écritures, Genèse 17 au verset 17. C'est un rire de scepticisme ou peut-être d'émerveillement. Quoi qu'il en soit, bien qu'il crût en ce que le Seigneur lui avait clairement promis, Abraham avait tout de même des difficultés à vivre cette promesse par la foi et dans la confiance. Comment apprendre à continuer à croire, même quand parfois nous avons du mal avec cette confiance, comme Abraham? Pourquoi est-il important de ne pas abandonner malgré les moments de doute? Mercredi 11 mai, le fils de la promesse. La dernière scène de circoncision impliquait tout le monde. Ismaël ne fut pas le seul à être circoncis, car tous les mâles de la maisonnée d'Abraham le furent avec lui. Genèse 17, versets 23 à 27. Le mot « col », tous, chaque, est répété à quatre reprises. Genèse 17, versets 23 et 27. C'est dans ce contexte inclusif que Dieu apparaît à Abraham pour confirmer la promesse d'un fils, Isaac. Lisez Genèse 18 au verset 1 à 15, Romains 9 au verset 9. Quelle leçon d'hospitalité apprenons-nous de la manière dont Abraham reçoit ses visiteurs? Comment expliquez-vous la réaction de Dieu à l'hospitalité d'Abraham? Nous ne savons pas clairement si Abraham savait qui étaient ces étrangers. Hébreux 13 au verset 2. Bien qu'il ait agi envers eux comme si Dieu en personne était parmi eux. Il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Genèse 18 au verset 1. Et comme les visiteurs sont rares dans le désert, il avait probablement envie de les rencontrer. Abraham courut vers les hommes. Genèse 18 au verset 2. Et bien qu'il fût âgé de 99 ans, il appela l'une de ces personnes Adonai, mon Seigneur. Genèse 18 au verset 3. Titre souvent utilisé pour Dieu, Genèse 20 au verset 4, Exode 15 au verset 17. Il s'affaira dans la préparation du repas, Genèse 18 verset 6 et 7. Il se tint debout à côté d'eux, attentif à leurs besoins et prêt à les servir, Genèse 18 au verset 8. Le comportement d'Abraham envers les étrangers célestes deviendra un modèle d'hospitalité. En fait, l'attitude de révérence d'Abraham communique une philosophie de l'hospitalité. Respecter et s'occuper d'étrangers n'est pas juste un geste de politesse. La Bible souligne qu'il s'agit d'un devoir religieux comme s'il s'agissait de Dieu lui-même. Matthieu 25 au verset 35 à 40. Ironiquement, Dieu est davantage identifié à l'étranger affamé et démuni qu'à l'homme généreux qui le reçoit. D'un autre côté, l'intervention de Dieu dans la sphère humaine dénote sa grâce et son amour pour l'humanité. Cette apparition de Dieu anticipe celle de Christ qui a laissé sa demeure céleste et qui s'est fait serviteur sous forme humaine pour atteindre l'humanité. Et Philippiens 2, versets 7 et 8. L'apparition de Dieu ici est une preuve de la certitude de sa promesse. Genèse 18 au verset 10. Il voit Sarah qui se cache derrière lui. Genèse 18 au verset 10, et connaît ses pensées les plus intimes. Genèse 18 au verset 12. Il sait qu'elle a ri et les derniers mots qu'il prononce est « tu as ri ». Le scepticisme de Sarah devient le point de départ de l'accomplissement de la parole de Dieu. Attardez-vous davantage sur l'idée que Dieu est davantage identifié à l'étranger affamé et démuni qu'à l'homme généreux qui le reçoit. Pourquoi est-il si important pour nous de ne pas oublier cette notion? Jeudi 12 mai, Lot à Sodome. Lisez Genèse 18, versets 16 à 19, verset 29. De quelle manière le ministère prophétique d'Abraham affecte-t-il sa responsabilité envers Lot? Abraham vient juste d'entendre Dieu lui reconfirmer sa promesse d'un fils. Cependant, au lieu d'apprécier la bonne nouvelle, il entraîne Dieu dans une discussion passionnée sur le sort de Lot à Sodome. Abraham n'est pas qu'un prophète auquel Dieu révèle sa volonté. C'est également un prophète qui intercède au nom des méchants. L'expression en hébreu « se tenait devant le Seigneur », Genèse 18, verset 22, signifie qu'il priait. En fait, Abraham met Dieu au défi et il marchande avec lui pour sauver Sodome où habite son neveu. Ils partent de 50 pour arriver à 10. Et Dieu dit qu'il aurait sauvé le peuple de Sodome si seuls 10 sodomites étaient justes. Bien sûr qu'on lit l'histoire de ce qui est arrivé quand les deux anges vinrent voir Lot pour l'avertir. Genèse 19 au verset 1 à 10. Nous voyons combien les gens étaient devenus tordus et méchants. C'était véritablement un endroit malfaisant comme beaucoup de nations environnantes. C'est l'une des raisons pour lesquelles au final, ils furent chassés du pays. Genèse 15 au verset 16. Et maintenant, la dernière nuit de Sodome est venue. À l'insu de ses habitants, les nuages de la vengeance projettent leur ombre sur la cité coupable. Tandis que les anges s'approchent pour détruire, les hommes ne rêvent que liesse et prospérité. Leur dernier jour était sur une scène de sécurité et de splendeur. Les rayons mourants du soleil baignent un paysage d'une beauté idéale. La fraîcheur du soir fait sortir les habitants de leur demeure et une foule désœuvrée circule en tous sens en quête de plaisirs nouveaux. Ellen White, Patriarche et Prophète, page 137. À la fin, Dieu n'a sauvé que Lot, sa femme et ses deux filles. Genèse 19 au verset 15, à peine la moitié du minimum de 10. Les gens qui n'ont pas pris au sérieux l'avertissement de Lot sont restés dans la ville. Genèse 19 au verset 14. Ce pays magnifique fut ainsi détruit. Le verbe en hébreu « hafaf », bouleversé, apparaît plusieurs fois dans ce passage. Genèse 19 au verset 21, 25 et 29 et caractérise la destruction de Sodome. Deutéronome 29 verset 23 et Amos 4 verset 11. L'idée, c'est que le pays a été retourné. De la même manière que le déluge a retourné la création originale, Genèse 6, verset 7, la destruction de Sodome est un retournement du Jardin d'Éden, Genèse 13, au verset 10. Dans la destruction de Sodome, nous avons également un événement annonciateur de la destruction, de la fin des temps, voir Jude 7. Vendredi 13 mai. Pour aller plus loin, lisez Ellen White, La loi et les alliances, pages 339 à 350 dans Patriarches et prophètes. La requête patiente et tenace d'Abraham auprès de Dieu au nom du peuple de Sodome, Genèse 18, versets 28 à 33, devrait nous encourager à prier pour les méchants, même s'ils semblent se retrouver dans une condition de péché désespéré. De plus, la réponse attentive à l'insistance d'Abraham et sa bonne volonté à pardonner pour seulement 10 justes est un concept révolutionnaire, comme le souligne Gerhard Hassel. D'une manière extrêmement révolutionnaire, l'ancienne pensée collective qui punissait tous les membres d'un groupe coupable, même les innocents, a été transposée en quelque chose de nouveau. La présence d'un reste de personnes justes pouvait avoir une fonction de préservation de l'ensemble. Au nom de ce reste juste, Yahvé, dans sa justice, Tzedakah, pardonnait à la ville méchante. Cette notion est largement développée dans la déclaration prophétique du serviteur de Yahvé qui donne le salut à beaucoup. le livre de Gérard Hassel, pages 150 à 151. De tous côtés, nous sommes entourés d'âmes qui marchent vers une ruine tout aussi fatale, tout aussi effroyable que celle qui allait frapper Sodome. Chaque jour se ferme sur un être humain la porte du salut. À chaque heure, des âmes passent la limite de la miséricorde. Où sont les voix qui avertissent, qui supplient le pécheur d'éviter l'affreux sort qui l'attend? Où sont les mains tendues pour l'arracher à la mort? Où sont ceux qui, en paroles brûlantes, d'humilité et de foi persévérante, plaident devant Dieu en faveur de l'homme perdu? L'esprit manifesté par Abraham était l'esprit de sauveur. Le Fils de Dieu est lui-même le grand intercesseur en faveur du pécheur. Celui qui a payé le prix du rachat de l'âme humaine en connaît la valeur. Ellen White, Patriarche Prophète, page 120. À méditer, seuls l'arc-en-ciel et la circoncision sont appelés signes de l'alliance. Quels sont les points communs et les différences entre les deux alliances? Bien qu'appelé par Dieu, et bien que souvent cité dans le Nouveau Testament, comme l'exemple de ce que signifie vivre par la foi, Abraham chancela parfois. Quelle leçon devons-nous tirer de son exemple? Certaines personnes rejettent l'idée que Dieu punira les perdus en disant que cet acte irait à l'encontre de l'amour de Dieu. Comment, en tant que personne qui croyons que Dieu en effet punira les perdus, répondons-nous à l'argument qui dit le contraire?